toi qui as côtoyé un président de près, la stratégie d'avant le premier tour pour les présidentielles, c'est quoi? Quand c'est tailler ce qui est en place, c'est-à-dire le président en place, au cas où il se représente, ou alors essayer de présenter son projet.
Parce que c'est notre projet.
Pardon.
Excusez-moi. Vive la République. Vive la France.
C'est toujours le petit syndrome qui revient de temps en temps. Donc,
mais le problème, c'est que moi, je me souviens d'un fait. Alors, pour le coup, vraiment de la campagne de 2012, quand François Hollande avait été candidat, il y a forcément, c'est un double phénomène. C'est-à-dire que tu es dans un phénomène de critique de celui qui est sortant, puisque sinon, il n'y a aucune raison que tu te présentes. Si tout qu'il a fait fort de trucs formidables, t'as pas besoin de proposer d'alternative. Tu le laisses faire. Donc, il y a effectivement la critique de ce qui a été fait ou de la ligne idéologique, de la vision de celui qui est en place, et tu peux la contester. Et François Hollande l'avait fait avec Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a les propositions que tu portes, c'est-à-dire quelle est la vision. Et là, moi, je trouve que les candidats à l'élection présidentielle, franchement, je ne sais pas dire ce qu'ils portent. Moi, ce qui m'inquiète dans le débat actuel de la présidentielle, c'est que tu peux me demander quel est le projet de tel ou tel candidat. Ben, en fait, la vision qu'elle porte, pas des petites propositions, genre la retraite à 65 ans, c'est des choses importantes, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la proposition, c'est pas une vision. On attend du président de la République qu'il ait une vision du pays, qu'il sache, qu'il nous dise où il va, ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, etc. Enfin, tu vois, qu'il l'emporte. Ben, je sais pas, en fait. Moi, j'ai des propositions par candidat, tu vois, qui émergent un petit peu par-ci, par-là. Bon, mais moi, si tu veux savoir qu'on va supprimer une partie des impôts sur les successions, j'en ai à foutre.
Enfin,
Ou la redevance télé. C'est pas notre sujet.
Oui, enfin,
le sujet, c'est que là, en plus, dans un état de crise, c'est encore plus important.
Ouais. Mais pour l'électorat populaire, c'est important.
Oui, mais t'as l'impression quand même, si tu veux, d'avoir aujourd'hui un troupeau sans berger. C'est-à-dire qu'ils partent dans tous les sens. Le matin, je sais pas, ils se lèvent le matin, ils font une proposition, c'est aussitôt oublié, machin. Évidemment qu'à côté de ça, Emmanuel Macron, qui est en plus président de la République dans un moment de crise, il les survole, puisque lui, tous les jours, il parle de vision géostratégique, il est dans un schéma de lutte contre une crise mondiale. Il a une hauteur, en fait, que les autres n'arrivent pas à rattraper. Et parce qu'ils se sont pas non plus donné les moyens.
Ouais.
Enfin, je veux dire, ça se travaille, en fait, une élection présidentielle. C'est-à-dire que tu arrives pas du jour au lendemain. Alors, Mélenchon a, pour le coup, beaucoup plus de prestance et de stature. Mais parce que lui, ça fait des années qu'il fait ça. Sauf que
c'est
son
métier.
Peut pas être crédible. Oui, il peut pas être crédible, puisqu'il est beaucoup trop dans les extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le seul qui, aujourd'hui, émerge dans une espèce de proposition, d'alternative, de vision.
C'est un tribun aussi. Il est
extrêmement... Oui, tu vois ce qu'il est, en fait. Mais, mais tu comprends, il y a un corpus idéologique, il y a une vision, il y a un truc qu'il porte. Franchement, les autres, je sais pas, en fait, je sais pas dire.
On va faire le survol des candidats, puisque maintenant on les connaît tous. Hein. On va commencer d'abord avec ceux qui vont serrer les fesses, hein, et tirer le diable par la queue, parce que le niveau de 5% ne sera pas atteint, donc pas de remboursement de campagne. Hein. Donc ça veut dire Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, désolé Jean Lassalle,
condoléances d'ailleurs.
Philippe Poutou, Fabien Roussel.
J'ai entendu une blague très drôle sur Anne Hidalgo qui disait que vu les sondages et avec la marge d'erreur, elle va finir par devoir des électeurs.
C'est vrai que c'est très drôle. Un mot sur la candidate du PS.
Non.
D'accord. Alors, pourquoi se présenter quand on sait qu'on ne dépassera pas 1 ou 2%? Est-ce que c'est pour exister pour les 5 ans à venir? Est-ce que c'est parce que ce sont les pros de la politique, ils ont besoin de cette reconnaissance-là pour pouvoir continuer?
C'est très différent en fonction des cas.
Bah, pour ceux-là qui vont...
Par exemple, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et d'autres sont dans une position qui est depuis des années d'élection présidentielle. Permet
Poutou,
en fait, un
Poutou
moment...
et Arthaud, ça fait 3 fois qu'ils se présentent. Ouais, c'est la troisième fois.
Ça permet, si tu veux, à un moment, à une certaine ligne idéologique de venir et de porter à ce moment-là des idées dans le débat public. Moi, j'ai plutôt du respect pour ce genre.
Ah non, mais moi, c'est pas.
Ils font pas une élection présidentielle pour gagner, ils font une élection présidentielle pour venir participer au débat et potentiellement amener des lignes politiques, amener des choses qui, pour le coup, peuvent. Comment dire, alimenter et irriguer le débat public. Enfin, Philippe Poutou, je reprends sur 2017, il avait été plutôt un des agitateurs de cette campagne, et même
absolument.
S'il a fait, je sais plus, peut-être 2%, c'était plutôt intéressant. Et moi, quand je l'entends, j'ai de l'affection pour lui, parce que je trouve que quand je l'entends à la radio, à la télé, etc., c'est l'un des derniers hommes politiques qui est passionné, en fait.
Non, c'est Jean Lassalle. c'est Jean. Ah, mais c'est Jeannot.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que. Non, mais il y a de la sincérité dans leur combat, en fait. Ouais. Et qu'à un moment, si tu veux, aller se faire la campagne présidentielle, passer le territoire ensemble, sachant que tu vas faire 2%. Bon, après, la candidate du Parti Socialiste ou le candidat du Parti Communiste, etc., c'est la fin d'un monde de gauche qui doit se réorganiser, qui doit se repenser.
Se réinventer.
Se réinventer totalement. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on aurait dû se poser la question de savoir ce que c'était que la gauche du 21e siècle, quelle vision de société, quel modèle on veut porter, en fait, qui est une alternative crédible de gouvernement, hein, pas pour le coup la gauche de Mélenchon, ni la gauche évidemment, ni de Poutou, ni de Artaud, mais c'est quoi la place en fait pour une vraie gauche de gouvernement issue de la social-démocratie qui pour le coup aujourd'hui se retrouve uniquement chez Emmanuel Macron, mais qui n'est pas en fait une gauche social-démocrate. Personne n'a répondu à cette question. On avait 5 ans, personne n'a voulu se poser là-dessus. Les élections municipales, régionales, départementales, en fait, tu sais, toutes les élections intermédiaires, finalement, elles emportent le truc parce que des personnages, par des histoires locales, etc., on arrive, bon an, mal an, à récupérer des postes. Et donc, finalement, on se dit, tiens, on n'est pas si mauvais, on y arrive. On n'a toujours pas d'idée, en fait. Mais localement, on a des idées, on a des gens qui ont pensé. Mais nationalement, on n'a pas pensé le pays, on n'a pas pensé le monde, on n'a pas pensé le changement, on n'a pas pensé l'évolution. En fait, ça sert à quoi de voter à gauche, Michel, quand on est aujourd'hui en 2022.
Un mot sur le PS et je te donnerai aussi la parole, Jeannot, là-dessus.
Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Le mécanisme sociétal qu'il faudrait réinventer, mais c'est pas spécifique à la gauche, la droite souffre aussi de ça. Eh bien oui, il faut être aujourd'hui force de proposition, mais on n'arrive pas à bouger la nation, on n'arrive pas à la bouger. Derrière, par contre, ce que je dirais effectivement à l'encontre du Parti Socialiste, c'est qu'ils nous ont démontré leur égoïsme et leur corporatisme. Et ça, c'est dévastateur. Je ne peux pas comprendre que des gens de gauche puissent aller jusque-là. C'est ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est plus accepté, ça n'est plus porté par les gens qui avaient un idéal social. Pas forcément socialiste, mais social. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, il faut changer plein de choses. Il faut aller vite, ça coûte cher. Il faut changer nos esprits. Il faut peut-être qu'à un moment donné, moins de privilèges quelque part au bénéfice global. C'est ça aussi qu'il faut. Mais ça, il faut inventer ce monde sociétal. Moi, je me suis permis de le dire une ou deux fois, parce que j'en suis convaincu. Je n'ai pas la qualité de pouvoir écrire les choses, mais mon instinct me guide à dire simplement, il faut effectivement qu'on change, parce que les choses changent, elles changent vite. Et le monde politique a du mal lui-même à se changer, parce que ça va trop vite.
Moi, je dirais qu'il ne changera pas, il changera de par la nécessité d'évoluer, quoi. Mais ce qui est intéressant, l'autre jour, j'ai écouté M. Bauer, qui est un ancien maître du Grand Orient de France, qui était interviewé dans une radio nationale comme la RTL, je pense. Il disait qu'effectivement, en France comme en Europe, on était un peu le pays des bisounours, qui était consumériste en plus de ça, donc on ne voyait pas plus loin que le bout de notre nez, mais alors qu'il y a des choses très graves qui se passent à la périphérie. Donc il est clair qu'aujourd'hui, je pense que avec la pression des événements extérieurs, on va quand même être plus raisonnable, les gens vont voter mieux, moins extrême, et les vraies valeurs reviennent au galop, hein, c'est-à-dire la survie du peuple et le fait qu'on soit vraiment un peuple uni, et d'ailleurs les Ukrainiens nous montrent l'exemple en ce moment. Ah,
c'est rien de le dire. Alors on continue notre visite des candidats. Ensuite il y a celui qui espère rester au-dessus des 5%, c'est Yannick Jadot. Ça, il serre les fesses aussi. Et ensuite il y a ceux qui vont lutter pour la troisième place. Donc moi j'en ai choisi trois, hein, bien sûr. Alors je peux me tromper, hein. J'avais mis Mélenchon, Zemmour, Pécresse.
Je t'ai trompé parce que je pense que...
Mélenchon, tu es comme beaucoup à penser que Mélenchon pourrait arriver en deuxième position. D'accord. Ok.
Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, dans les deuxièmes positions, tu peux avoir soit Zemmour, soit Le Pen, soit Mélenchon.
D'accord. Non, parce que moi, j'avais pensé à Le Pen directement qualifié pour le deuxième tour.
Non, c'est pas gagné.
Gagné, d'accord.
Je pense que pour le coup, elle est toujours en plus en balance avec Éric Zemmour.
Zemmour, un mot sur Zemmour. Tu penses que c'est Bolloré en sous-marin ?
Pas du tout. Oui, c'est sûr que Bolloré, il est pas de ton non plus, parce que évidemment, quand tu vois
Pascal Praud, son attaché de presse, on est d'accord.
Loin, ouais. son premier clip, on se rappelle quand même que son premier clip de campagne était truffé d'images volées.
Oui.
Et en l'occurrence, il a eu un procès, il s'est fait condamner. Là, son deuxième clip, là, qui est la réponse à la candidature de Macron, il n'y a que des images de CNews. Que ça. Donc, et en l'occurrence, sans doute qu'il part du principe que personne ne va l'attaquer chez Bolloré. Donc, même si ce n'est pas officiel, de toute façon, excusez-moi, mais Vincent Bolloré, il fait peut-être en France ce qu'il a fait dans beaucoup de pays africains, c'est-à-dire qu'il fait les élections. Hein.
On est d'accord. Une question à tout le monde. Est-ce que vous pensez que le ralliement de la poutinienne Dushka Alyosha Svetlana Kovetchenko Maréchal peut donner éventuellement un second souffle à Vladimir Zemmour?
Je pense que tout le monde s'en moque complètement.
Ouais, tu crois? Parce que lui, il pensait, je pense...
Bah, en plus, ils l'ont sorti au mauvais moment, dans un moment où lui était en train de s'embourber dans l'accueil des réfugiés... Ouais. Ah, pardon, on n'appelle pas ça les réfugiés... Parce que
les expatriés.
Ouais. Ça c'est vraiment un truc qui me met très très en colère, de voir à quel point effectivement on fait deux poids deux mesures en fonction de la couleur de la peau. C'est-à-dire que quand vous avez une crise en Afghanistan, personne veut les Afghans. Personne. Pourtant il y a autant de personnes qui meurent, voire plus. Quand c'est des Ukrainiens parce qu'ils nous ressemblent, et qu'ils sont chrétiens, là tout d'un coup, tout le monde les accueille. C'est-à-dire qu'en fait c'est génial, hein, toutes les collectivités, même de droite, et même maintenant l'extrême droite, est pour accueillir des réfugiés. Seulement s'ils sont blancs et chrétiens.
Par contre,
c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très inquiétant. Et même quand j'entends Darmanin, si tu veux, le ministre de l'Intérieur, qui explique que, effectivement, c'est très dur pour les Ukrainiens parce qu'ils vont faire parfois 40 heures de route pour venir jusqu'en Europe, jusqu'en France. Évidemment, il a raison. Mais à côté, effectivement, je n'ai jamais entendu dire que c'était terrible de voir des gens qui traversent la Méditerranée dans un bateau.
Alors,
et qui, pour le coup, eux, se noient. Je trouve que c'est d'une indécence, si tu veux. Pas de les accueillir,
non,
évidemment.
Non, on est bien d'accord.
Il faut le faire.
Mais en fait, le deux poids, deux mesures.
Quelles que soient les populations. C'est-à-dire qu'en quoi on a plus peur d'une personne qui vient d'Afghanistan que d'une personne qui vient d'Ukraine.
Je voudrais te faire écouter quelqu'un, vous allez l'écouter
avec
aussi.
Avec la notion de migrant de qualité en plus maintenant, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué quand même que l'Ukrainien était de qualité. Vous vous rendez compte de ce qu'il
est,
et pas par des gens d'extrême droite, hein,
c'est
par
juste
des éditorialistes politiques. Et
Je suis content pour Zemmour parce qu'il a pu dire Maréchal nous voilà.
Oui, ça c'est sûr.
Non, la voilà.
C'est Maréchal la voilà. Écoutez, un homme politique, vous allez le reconnaître.
Non, mais moi je vais plaider coupable. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. J'ai eu tort de... Enfin, en gros, vous savez, il y avait deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, on aurait raison de les soutenir et d'accueillir tous les réfugiés qui nous le demandent. Et moi, je les accueille. Et puis, il y a, je sais pas, 3 ans, ou non, un peu plus, ça faisait 4-5 ans. Non, c'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas européens, parce qu'ils sont pas chrétiens, parce que les bombes, elles sont... pas différente quand elle tombe sur mes amis à Kiev, et moi j'en ai plein, qu'elle tombe sur mes amis d'Alep, parce que j'ai des amis à Alep que j'ai défendu, que je suis allé voir au moment d'un certain nombre de prises d'otages et qui ont sauvé un certain nombre de journalistes, et je sais pardon de quoi je parle exactement là. Je crois qu'on a tort. Et vous avez raison de souligner ce deux poids deux mesures, il est pas glorieux pour nous et pour moi.
C'est pas fréquent d'entendre un responsable politique dire de cette manière, on n'a pas bien apprécié les choses, on s'est peut-être trompé.
On s'est trompé, et c'est pas une erreur, c'est une faute.
Vous l'avez reconnu, bien sûr.
Oui, c'est Robert Ménard.
Ménard.
Alors, j'ai aucun respect pour... j'ai pas beaucoup de respect pour Robert Ménard, mais là, pour le coup, il faut lui reconnaître qu'il a raison. Il a raison.
Il est en train de se détacher de son ancienne famille politique. Hein,
Oui, de toute façon, plusieurs fois, il avait même presque soutenu Emmanuel Macron. Il l'accueille aujourd'hui à Béziers, beaucoup mieux sans doute que Marine Le Pen. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a réfléchi. Et moi, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Hein, donc, à la rigueur, tant mieux. Mais j'aimerais effectivement que cette autocritique se partage. Mais pas qu'à l'extrême droite. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Tu sais, la droite républicaine. Là-dessus.
Parlons-en de la droite.
Éric Ciotti et toute la clique, là, si tu veux, qui globalement sont presque plus fachos que Zemmour. Il y a un moment où c'est pas parce que tu t'appelles LR que tout d'un coup, t'es plus respectable. Hein.
Oui, et ça tombe bien, puisque je voulais parler donc de l'autre candidate, Valérie Pécresse. La parole est à la Défense.
Mais elle est encore candidate.
Oui, la parole est à la Défense. Alors,
donc, je n'ai rien à dire de particulier. Je dirais que
Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting, Jeannot, sur la candidate Valérie Pécresse?
Je ne pense pas. Ce qu'il faut simplement lui reprocher, s'il y a quelque chose à lui reprocher, c'est effectivement de souscrire à certaines thèses d'extrême droite, parce qu'on a bien vu, nous, dans les élections précédentes, en 2012 en particulier, ça ne paye pas. C'est pas la peine d'essayer de s'approprier les thèses d'extrême droite, ça sert à rien. C'est pas pour ça que les gens vont voter pour vous, on l'a bien vu. Donc il est clair qu'il fallait laisser l'extrême droite s'agiter tranquillement dans son coin, tout en prenant de l'importance, mais on verra ça au niveau des urnes, parce que rien n'est joué jusqu'au dernier moment. On le voit bien d'ailleurs en ce moment.
Elle est passée, d'ailleurs on l'appelle depuis quelque temps Miss Chanel, hein, tu le sais. C'est numéro 5. Et donc... je te dis ça, c'est parce que Macron est arrivé avec donc le dernier sondage 33, Le Pen 15, Mélenchon 13, Zemmour 11, Pécresse 10. Donc c'est pour te dire que voilà, c'est...
Il y a quand même une réserve de voix, est-ce qu'elle nous fait une bonne surprise d'ailleurs au niveau de sa valorisation, non pas boursière, mais au niveau de sa valorisation électorale, je pense qu'il y aura des changements.
Tu crois? Ouais, tu y crois? Tu es vraiment...
J'en suis persuadé.
Bon. Ouais, je pense qu'elle va encore descendre, mais... Mais la question du candidat, je suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que la question, c'est que Xavier Bertrand aurait été un candidat plus gaulliste, plus social. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand il y a une extrême droite aussi forte et avec un centre aussi fort, t'as intérêt à avoir une proposition qui ressemble à une idéologie. De toute façon, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur la gauche, hein, la droite, ouais, a le même problème.
Hein. Oui, c'est exactement la même chose.
Qu'est-ce que pense la droite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle propose en termes de gouvernement, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes rengaines, l'augmentation de l'âge de la retraite. T'as l'impression tu peux ressortir le discours de Sarkozy, ou même d'ailleurs d'avant de Chirac. En fait, il n'y a pas eu de modification idéologique, et c'est toujours les mêmes propositions. C'est piteux, tu vois. Donc, en fait, en termes d'idées...
C'est toi qui le dis, parce que...
Bah, c'est quoi le modèle de Valérie Pécresse de société? Excuse-moi, à part, effectivement, enlever des contributions sur les successions, augmenter l'âge de la retraite, et en fait, toujours les mêmes mesures. C'est la même chose depuis des années. Supprimer tel ou tel impôt.
Parce qu'en fait, c'est ça. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, dans une interview donc, sur RTL ce matin, disait qu'il fallait d'ores et déjà envisager de travailler plus longtemps, c'est-à-dire se rapprocher du modèle européen qui consiste à partir à la retraite à 65
oui,
ans.
Bien sûr.
Et d'autre part, évidemment, travailler plus, parce que les 35 heures, vous nous avez foutu une merde, pas possible.
Tu nous as foutu dans la merde, hein, avec tes 35 heures, Christophe.
Je trouve que
c'est très bien les 35 heures, mais en fait, le problème, c'est que en fait, on est dans un vieux modèle. C'est comme quand on dit qu'on veut augmenter la retraite à 65 ans. C'est où tu peux mettre 70, tu peux mettre 75. En fait, tu règles pas les problèmes. Pourquoi? Parce que dans notre pays, on n'emploie pas les personnes qui ont plus de 60 ans. À quel moment, en fait, on fait reposer la question du départ à la retraite sur l'assurance chômage? En fait, c'est juste qu'on va transférer la question de l'accompagnement social. C'est-à-dire que c'est plus... et du coup, il va y avoir des personnes qui vont être en fin de carrière, qui en plus vont être en fin de droit et qui n'auront pas d'argent avant de pouvoir toucher leur retraite. Enfin, on est dans un système qui est quand même en train de partir en vrille.
Je dis simplement qu'on a...
D'abord, il faudrait que les chefs d'entreprise, avant de demander la retraite à 65 ans, parce que pour le coup, c'est une demande très forte du patronat, avant de faire ça, il faut qu'ils se donnent les moyens d'embaucher les gens qui ont plus de 60 ans. Aujourd'hui, déjà, t'as quand même un quart de la population qui, après 60 ans, a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, globalement, t'as un quart des gens qui ne verront jamais la retraite. C'est déjà un fait. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est quel modèle de société on veut? Est-ce qu'on veut juste des gens qui travaillent jusqu'à la fin de leur jour, ou à un moment, on considère que vivre, c'est pas uniquement travailler? Donc, le modèle, de droite qui consisterait presque à pousser jusqu'à 70 ans, il faut arrêter avec ça.
C'est le modèle macroéconomique qui doit s'imposer. C'est-à-dire que tu travailles, tu crées de la richesse, de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, tu la répartis. Mais tu ne peux pas répartir des valeurs ajoutées qui n'existent pas parce que tu ne travailles pas assez. Et c'est ce qui se passe en France à l'heure actuelle.
Mais si les gens, au lieu d'être à la retraite, ils sont au chômage parce qu'ils sont inemployables, la société va quand même payer pour eux. Donc si tu veux, c'est juste qu'on va transférer les lignes.
Enfin, Michel,
effectivement, la retraite à 65 ans, l'âge légal de la retraite en France, c'est 67 ans aujourd'hui, à taux plein. 67 ans.
62.
67 ans. À 62 ans, c'est les carrières courtes. C'est par exemple celui qui a travaillé relativement jeune peut gérer. Alors, celui qui a fait un travail physique.
Oui, la pénibilité. Ouais.
La vraie pénibilité, celle qui est traumatique, je peux en parler. Eh bien oui, le gars a 62 ans, il part, c'est une nécessité. Parce que voilà. Ensuite, c'est vrai que la longévité aussi, comment on règle le problème de la longévité? Si on fait une rétrospective, sur 50 ans, on s'aperçoit que les gens étaient très peu en retraite. Puisque là, il faut savoir que l'âge légal, au début, c'était 65 ans. Nos aïeux, qu'ils soient dans les bureaux ou qu'ils étaient
agriculteurs
ou dans le bâtiment, ils partaient à 65 ans. Pour le plus grand nombre, ils ne profitaient pas de la retraite. Donc c'est vrai que le fait de rabaisser à 60 ans pour certains secteurs d'activité, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on a une longévité incroyable. On est aujourd'hui à 80, les femmes ont dépassé 80, 83, et les hommes, ils flirtent avec les 80. Comment on fait, celui qui part à 62, 65 ans, comment on fait pour financer tout ça? Il y a 14 millions de retraités aujourd'hui en France. C'est pas neutre sur 60, un peu moins de 70 millions. Moi, je suis ouvert à tout. Et si, pourquoi pas mettre la retraite à 50 ans, il faut démontrer qu'il y a une enveloppe économique, financière, qui est là pour répondre on va pas charger les entreprises. Je sais pas comment on va faire. Le fait de réduire, y compris les 35 heures, là je suis d'accord avec Jeannot, les 35 heures quand on regarde les problématiques financières qu'on va trouver dans les secteurs publics par le jeu des 35 heures, c'est une désolation. Et les gens sont pas pour autant plus heureux. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc il y a un moment donné, il faut mettre des avancées sociétales, il les faut, mais il faut mettre une action économique derrière qui puisse équilibrer.
Par exemple, les fadaises comme celle de Benoît Hamon qui prônait création d'un revenu universel. Non, je veux dire, c'est n'importe quoi.
Mais moi, je veux bien qu'on me donne de l'argent et je reste à la maison. Hein.
Oui, mais combien aujourd'hui toutes les institutions aujourd'hui qui vont abonder pour effectivement pallier aux mécanismes sociaux, mais si demain tu en regroupes un, tu vas t'apercevoir que c'est peut-être la solution, le revenu universel, un revenu de survie. Attention.
Ouais, ouais, ça ne sera pas non plus.
Cette question de savoir comment on accompagne les citoyens dans leur vie de tous les jours. Est-ce qu'on doit faire des aides séparées? Est-ce qu'on doit justement créer une aide
globale, quoi.
Bien sûr. La question, elle se pose. Aujourd'hui, il y a dans une vie, il y a des coupures, il y a des moments durs, il y a des moments voilà, il y a la vieillesse. Des fois, tu n'attends pas effectivement la retraite pour avoir des problèmes de santé. Tu peux les avoir au milieu et puis finalement, tu reviens en forme. Enfin, tu vois, donc, les parcours de vie sont tellement différents que notre modèle social, il faut pas le détruire. Il faut peut-être le réinventer. Mais en l'occurrence, la réponse qui est juste de dire, en fait, on va allonger le temps de travail, que ça soit en nombre d'heures par semaine ou sur la durée de vie. En fait, on nie le fait que le travail, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tout. Évidemment, ceux qui pensent les lois, c'est ceux qui s'éclatent et qui s'amusent. C'est-à-dire que moi, franchement, dans mon boulot, moi, je suis très content, j'ai de la chance, j'ai une chance immense, en fait, de pouvoir travailler dans un truc qui m'éclate. Enfin, sérieusement, je serais secrétaire, je serai à la caisse d'un supermarché, etc. Je suis pas certain de trouver ça formidable pendant 45 ans. Bien sûr que je le ferai par impératif pour pouvoir manger. Mais en fait, tous ceux qui font la loi et qui la commentent sont des gens qui ne vivent pas la réalité des choses. Et je pense qu'il faut arrêter de penser pour eux. Même un chef d'entreprise, en fait. Le chef d'entreprise, quand c'est un entrepreneur, il s'est amusé, il a pris des choses en main. Enfin, vous le savez, il a construit quelque chose, c'est son bébé. Et même quand c'est dur, si tu veux, il y a une espèce d'épanouissement intellectuel, personnel, etc. On parle pas des mêmes métiers, des fois. Tu vois ce que je veux dire? On parle pas des mêmes choses.
J'avais oublié que tu parlais beaucoup.
Ah bah, fallait pas m'inviter. Hein.
Fallait pas l'inviter. Hein.
On est content parce qu'on a eu un socialiste, donc c'est rare de nos jours. Ça me fait plaisir parce que si ça se trouve, j'en veux plus.
Je voulais terminer sur une note un peu, donc un sourire, comme on fait à chaque fois. La semaine dernière, on avait terminé. Je sais pas, tu étais là la semaine dernière?
Je sais plus.
On est terminé avec Laurent Gérard avec donc une imitation de Philippe de Villiers parlant d'Éric Zemmour. C'est vrai qu'on avait beaucoup ri. Et donc là, on va terminer avec Valérie Pécresse, évidemment.
Tu passes de Laurent Gérard à Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse, donc, qui s'est fait un petit peu brocarder. C'était dans l'émission C'est à vous de la 5 que vous connaissez et où on nous explique qu'elle s'est pris pour Siri. Vous savez, Siri.
Siri. Je le dis pas parce que mon téléphone va s'activer.
Voilà, faut pas le dire, hein. Tenez, écoutez.
Phénomène incroyable. Hier soir, Valérie Pécresse s'est radicalisée en Siri. Pas le pays, hein. L'assistant vocal, Siri. Elle parle officiellement de la même façon.
Ah oui, c'est vrai.
Dis Siri, quel temps fait-il?
Le temps est venu de réparer la France.
C'est bluffant. Dis Siri, que doit faire Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron doit rendre des comptes.
Siri, comment sont les faits ?
Les faits sont implacables.
Bon, allez, une dernière, après j'arrête, j'ai peur de la casser. Dis Siri, que faudrait-il faire ?
Pour cela, il faudrait du courage.
C'est très très bien.
J'avais trouvé, franchement, bon, drôle, je veux pas me moquer, mais c'était, j'avais trouvé ça vraiment très drôle. C'est comment, Bertrand Chamorro, j'ai oublié son nom, qui fait cette chronique tous les soirs sur C'est à vous. Et c'est vrai qu'il prend un malin plaisir en ce moment avec Valérie Pécresse. Il faut dire que il lui amène de la matière, comme on dit. Donc voilà, tu l'as pas mal pris, hein, Jeannot.
Non, non.
Bon, ça va, j'ai vu que tu t'étais marré aussi. Eh bien, sur ces bonnes paroles, les enfants, je vous abandonne.
Pense à aller voter, parce que sinon, il n'y aura aucune voix.
J'aurai la mienne déjà.
Justement, pense à aller voter.
C'était Christophe Pierre et notre invité aujourd'hui. Merci d'être beaucoup. Venu, Christophe. À la prochaine.
Merci, à vous
merci Michel. Merci, Jeannot. Bisous à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.